This is Radio France International.
De Paris, RFI, de
l'Europe.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, ce soir pour la rédaction en anglais. Laura Martel, avec la place du français au Ghana, un pays anglophone.
Good evening.
Pizemam de la rédaction cambodgienne pour parler de la presse indépendante qui est en état de ruine au Cambodge, justement.
Ce soir, Philippe.
Et Miguel Martins de la rédaction portugais pour nous parler du lancement par l'Union africaine d'une zone de libre-échange regroupant 55 pays du continent.
Boa tarde.
Bonsoir à vous tous. Bien sûr, vos rédactions relatent ce soir ce qui s'est passé dans le sud de la France avec cette attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique. 3 morts, 5 blessés, dont certains dans un état grave, en plus du terroriste tué par les forces de l'ordre. Je vous retrouverai, moi, dans une heure pour une édition spéciale. Avant cela, revenons sur ces deux chefs d'État de grands pays qui entendent bien s'incruster au pouvoir. Vladimir Poutine et Xi Jinping, le premier réélu pour la 4e fois et l'autre qui pourra être réélu autant de fois qu'il le souhaite. En Chine, tout d'abord, Laura Martel, le Parlement a accordé donc la présidence à vie à Xi Jinping.
Oui, on ne peut pas dire que le suspense était vraiment haletant hein, quand les quelques 3000 membres du Parlement chinois, qui est plus, on le sait, une chambre d'enregistrement qu'une institution indépendante, ont entériné il y a 15 jours une réforme de la Constitution qui permet au numéro 1 chinois, Xi Jinping, de rester président à vie. Un vote aux allures de plébiscite avec 2958 voix pour et seulement 2 voix contre et 3 abstentions.
Une réforme qui fait au final sauter la limitation du mandat présidentiel à 2 termes. Une réforme pourtant voulue en 1982 par Deng Xiaoping.
Oui, Deng Xiaoping qui voulait à l'époque prévenir toute dérive autocratique comme sous le règne de Mao. Aujourd'hui, Xi Jinping renoue avec ses toute-puissances de Mao, réélu il y a une semaine à la présidence par le Parlement. Il était le seul candidat, on le rappelle. Xi Jinping, en plus de cette possibilité de présidence à vie, est aussi secrétaire général du Parti communiste et commandant de l'armée. Alors William Lam, un politologue à l'université chinoise de Hong Kong auquel nous avons parlé, souligne à quel point tous les pouvoirs sont désormais concentrés dans les mains d'un seul.
Xi Jinping has become emperor for life. Essentially, we are back.
Xi Jinping est désormais empereur à vie, nous dit-il, ce qui remet la Chine dans la situation qui prévalait sous Mao, avec une surpersonnalisation du pouvoir. Il ajoute que les décisions politiques, économiques ou encore militaires seront donc prises par un seul homme et qu'il n'y a plus de mécanisme de frein ni de contrepoids à l'exercice de son pouvoir.
Et cette personnification du pouvoir, évidemment, inquiète l'expert que l'on vient d'entendre.
Oui, pour Willy Lam, c'est clairement un retour donc au régime dictatorial qui, sous le règne de Mao, avait conduit le pays au chaos, en particulier pendant la révolution culturelle.
Xi Jinping, of course, has a number of very bright advisors and policies.
But quelle est son analyse?
Mais il estime que même si Xi Jinping a pourtant autour de lui des conseillers, des spécialistes qui sont avisés, eh bien, ils n'auront plus vraiment d'autre choix que de lui dire ce qu'il veut entendre, ce qui est très dangereux, et c'est précisément ce qui avait mené, selon lui, aux décisions désastreuses prises par Mao et aux horreurs qui s'en sont suivies dans les années 50 et 70. Xi Jinping est en train de ressusciter le système Mao, conclut Willy Lam, et pour lui, bien sûr, les conséquences vont se faire sentir non seulement en Chine, bien sûr, mais aussi dans les rapports de pouvoir sur la scène internationale.
Miguel Martins, sur un plan international, la Chine s'impose de plus en plus sous la férule, sous le commandement, on peut dire maintenant, de Xi Jinping.
Voilà, en effet, ce que nous disait la responsable de la Chine au sein d'Amnesty International au Portugal, on l'écoute.
C'est la tentative de conquistar un domaine sur le monde avec l'histoire de...
Alors, que vous disait Miguel, cette responsable d'Amnesty International?
Elle nous disait qu'il s'agissait là de conquérir une mainmise à l'échelle du monde. La reconstitution de la route de la soie en fait partie. Si les Chinois construisent des infrastructures à l'étranger, c'est pour essayer également de soumettre ces peuples. Elle donne l'exemple de la Grèce qui a voté contre une résolution de l'ONU concernant les droits de l'homme en Chine. Et ce parce que les Grecs avaient cédé depuis peu le port du Pirée aux Chinois. Pour Teresa Nogueira, seulement le Japon s'inquiète de cette nouvelle route de la soie. Tokyo fait en sorte de mettre sur pied une nouvelle route concurrente auprès de petits pays européens pas encore impliqués dans cette fameuse route de la soie.
Alors voilà pour Xi Jinping. Venons-en à Vladimir Poutine, pizemam. Après 18 ans de pouvoir, il vient de gagner donc cette nouvelle élection avec près de 77% des voix. Il va rester au pouvoir jusqu'en 2024 et cette victoire, sans surprise, bien c'est parce qu'il n'existait pas une opposition crédible face à Poutine.
Oui, Philippe, on se souvient encore le 27 février 2015, le jour où Boris Nemtsov, l'opposant charismatique en Russie, s'est fait assassiner au pied du Kremlin, 4 balles dans le dos. Boris Nemtsov était un espoir d'une vraie opposition politique face au pouvoir et le clan de Poutine. Depuis, quelques figures opposantes, telles que Alexei Navalny, essayent tant bien que mal à se faire une place dans le paysage politique russe. L'opposition crédible est absente parce qu'elle est en Alexei Navalny a été condamné pour l'empêcher à se présenter à l'élection. Appelant à boycotter l'élection, il ne parvient pas à rassembler tous les électeurs de l'opposition. L'opposition est divisée avec plusieurs candidats qui suscitent plus ou moins de méfiance de la part des électeurs, notamment la candidate de la journaliste Ksenia Sobchak. Le lendemain de l'élection, les journalistes ont pu assister à un passe d'armes entre Alexei Navalny et Ksenia Sobchak. Cela démontre aussi une opposition concurrente et divisée.
Voilà, donc une opposition divisée, ce qui explique donc la victoire de Vladimir Poutine, mais pas que cela, Miguel Martins. Poutine doit également sa réélection au fait qu'il milite pour la Grande Russie, ce qui est dans la logique de l'engagement de son pays en Syrie. Pour autant, est-ce que cet effort de guerre pourrait le pénaliser à terme ?
On pourrait se poser la question, José Milaz, vous êtes spécialiste de la Russie, on l'écoute à ce propos.
À quel point est-ce que la Russie va avoir capacité économique, financière, diplomatique.
Quel est son commentaire ?
Donc, ce journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur la Russie émet des doutes sur la capacité économique, financière, diplomatique et militaire de Moscou pour faire face à la guerre en Syrie. José Milaz rappelle que la guerre en Syrie ne pourra pas s'achever du jour au lendemain. La guerre en Afghanistan, elle, se poursuit depuis déjà 40 ans. Celle de Syrie sera bien plus coûteuse que celle d'Afghanistan. Peut-être pas en termes d'hommes, mais plutôt en termes d'armes ou de ressources financières, et comment va évoluer la question de l'Est de l'Ukraine et les relations internationales tout court. Poutine décide de rallier tellement de fronts simultanément que tout cela peut lui coûter très cher. D'après cet analyste, il pourra se retrouver dépourvu de ressources pour continuer à s'engager sur ces différents fronts. Il pourrait alors connaître le sort de ce qui a fini par arriver et précipiter la chute de l'Union soviétique, conclut cet expert.
Pizet, Xi Jinping a réussi son coup d'état constitutionnel en abolissant les limites des 2 mandats présidentiels. Est-ce que Poutine pourrait faire de même et se représenter au-delà de 2024 ?
Oui, Philippe, si on observe bien, Poutine a su habilement contourner cet obstacle en 2008. Il a laissé place à Dmitri Medvedev pour remettre le compteur à zéro en 2012. Entre-temps, il a fait aussi modifier la constitution pour prolonger le mandat présidentiel à 6 ans. Il est donc tout à fait probable qu'il envisage à supprimer la limitation de 2 mandats consécutifs une fois il aura la Douma entre ses mains. Par ailleurs, face aux journalistes le jour de l'élection, il a avoué lui-même qu'il réfléchit à cette question, mais il a tout de même ajouté qu'il ne peut pas diriger la Russie jusqu'à l'âge de 100 ans non plus. En 2024, il aura 72 ans.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces deux hommes qui s'accrochent au pouvoir. Et je reviens un instant à ce qui s'est passé dans le sud de la France, puisque le président Emmanuel Macron vient de s'exprimer et il vient de donner ce nouveau bilan. 3 morts et 16 blessés, dont 2 sont dans un état grave. Vous écoutez Action du Monde sur RFI.
20
Action du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. Tenez, cette semaine, l'Union africaine a lancé en grande pompe à Kigali, au Rwanda, une zone de libre-échange. Elle concerne 55 pays du continent. Miguel Martins, de la rédaction lusophone. Pour bien comprendre, faisons d'abord un état des lieux.
Il s'agit là surtout d'une volonté de changer radicalement l'état des choses. Contrairement à l'Europe, où 70% des échanges commerciaux se font au sein de l'Union, en Afrique, seuls 16% des échanges se font au sein du continent. On veut donc faire augmenter de 60% le commerce intra-africain, et ce, en mettant un terme aux barrières douanières. Silvio Rongwan est analyste politique au Mozambique. Il en convient, l'état des lieux que l'on peut faire en 2018 en Afrique n'est pas admissible. Pour lui, il faut changer avec les pratiques commerciales héritées du passé. Je vous propose de l'écouter.
Que dit Sylvia Orungan?
Il nous disait que puisque les Africains revendiquent avoir une identité commune, il faudrait qu'ils fassent du commerce aussi entre eux. Ce n'est pas normal que le Mozambique ait davantage d'échanges avec le Portugal, alors qu'avec les voisins tels que le Swaziland, la Tanzanie ou encore la Zambie, il n'y a quasiment pas de commerce du tout. Le développement économique, si l'on veut qu'il soit durable, il doit être géographique. On ne peut pas continuer à vivre sur le même continent tout en ayant le dos tourné aux voisins. Il faut que nous nous intégrions sur un plan politique, mais aussi économique et culturel, dit-il.
Autre chose, en dépit de l'absence mercredi à Kigali de certains poids lourds du continent, comme le Nigeria, plusieurs dizaines de chefs d'État, Miguel, se sont déplacés pour l'occasion.
En effet, Philippe, ils étaient 27 à Kigali, 44 pays africains sur 55 ont donc signé la création de cette zone de libre-échange. José Pacheco, ministre mozambicain des Affaires étrangères, était lui aussi du voyage. Il vantait donc les mérites de ce nouveau dispositif panafricain. Je vous propose de l'écouter.
Os nossos produtos têm a oportunidade de serem colocados nos mercados dos outros países e vice-versa.
José Pacheco disait que les produits du Mozambique vont désormais pouvoir se retrouver sur les marchés des autres pays du continent et vice-versa. Le défi à relever, selon lui, c'est de s'assurer que les produits qui seront mis en vente seront d'origine africaine. Même lorsque l'on parle de produits manufacturés, il faut donc pouvoir garantir que la principale partie de la matière première se compose d'abord d'une production locale. Selon le ministre mozambicain des Affaires étrangères, il serait ainsi possible de faire un pari sur la croissance et ce grâce à la production nationale et à la vente de ces mêmes produits.
Alors tout ça c'est bien beau, ça part d'une bonne intention, pour autant Miguel, peut-on penser que d'un coup de baguette magique on puisse tout changer au niveau du commerce africain?
C'est loin d'être évident et ce d'autant plus que nombre d'observateurs internationaux dénoncent le fait que les économies africaines sont plus similaires que complémentaires. On ne va pas décréter du jour au lendemain que désormais la Guinée-Bissau va vendre des noix de cajou à l'Angola contre du pétrole, ou encore moins que les Zambiens vont venir s'approvisionner en chaussures chez le voisin mozambicain, et ce malgré la grandeur de l'objectif affiché qui ferait que cette zone continentale de libre-échange se chiffrerait à hauteur de 2500 milliards de dollars en termes de produits intérieurs bruts. On parlerait là de la plus grande zone de libre circulation au monde avec 1,2 milliard d'habitants.
Et c'est donc en Afrique que ça se passe ou que ça va se passer. Miguel Martins de la rédaction Lusophone de RFI. Au Cambodge, à l'approche de l'élection législative, le pouvoir s'est montré de plus en plus agressif envers les opposants et envers la presse indépendante. Mi-février, Reporters sans frontières a ainsi écrit dans un rapport qu'elle est en état de ruine, cette presse indépendante. Misemam, quel est donc le sort qui lui est réservé au Cambodge?
Oui Philippe, difficile de croire que le Cambodge est en train de reculer 30 ans derrière. L'année 2017 a été très chargée en frustration, indignation et déception. Plusieurs journalistes sont menacés et emprisonnés. L'acharnement du gouvernement de M. Hun Sen contre la presse indépendante est implacable. En août, le journal de Cambodia Daily, le plus vieux quotidien anglophone au pays, a dû fermer la porte pour une histoire invraisemblable de taxes non payées. Et selon le rapport de Reporters sans frontières, au total, 32 stations de radio ont été fermées fin août. Parmi eux, le bureau de Radio Free Asia à Phnom Penh, connu pour son franc-parler critiquant le gouvernement. Deux anciens journalistes de cette radio ont été arrêtés pour espionnage.
Il reste donc quoi? Les médias de masse, officiels, la télévision qui est entre les mains du pouvoir.
Oui, les médias de masse sont largement concentrés dans les mains d'une poignée de hommes d'affaires affiliés au parti de M. Hun Sen. C'est incontestable si on part des chaînes de télévision. Soit elles sont propriétés des enfants ou des beaux-enfants du Premier ministre, soit elles sont propriétés de ses amis. La télévision compte 80% de l'audience et grâce à cela, le pouvoir contrôle son image de propagande pénétrant dans les campagnes profondes. De surcroît, il revient au ministère de l'Information, donc le gouvernement, de décider de façon totalement opaque de l'attribution des licences de diffusion ou des cartes de presse. Donc il n'existe pas d'un organe indépendant pour en attribuer. L'espace de liberté de presse et d'expression est de plus en plus rétréci.
Alors est-ce que dans le même temps les réseaux sociaux peuvent contribuer à combler cette absence de médias indépendants?
Oui, c'est vrai que Facebook est un phénomène en pleine explosion au sein de populations cambodgiennes très jeunes et très connectées. Selon le rapport de Geeks in Cambodia en 2017, 40% des Cambodgiens s'informent d'abord par Facebook. Mais le pouvoir a compris cela très très vite. Ils savent comment profiter de cette nouvelle plateforme. La page Facebook du premier ministre Hun Sen est l'une des plus visitées au monde, juste après celle de Donald Trump et Narendra Modi. Oui. En même temps, plusieurs organes de médias en ligne commencent à se faire surface, notamment les sites d'information Fresh News, quand ce n'est pas des propagandes pro-gouvernement. Ce site d'information digne de Sputnik propage souvent des fausses informations et des accusations envers les opposants du régime.
Raison de plus pour écouter Radio France Internationale, que ce soit l'antenne, que ce soit le site internet. Pizemam de la rédaction cambodgienne de Radio France Internationale. La semaine de la francophonie touche à sa fin, il en a largement été question sur nos antennes. Et à la rédaction en anglais, Laura Martel, vous vous êtes intéressée à l'usage de la langue française au Ghana. Pourquoi, dans la mesure où le Ghana est un pays anglophone?
Alors, anglophone, certes, hein, bien sûr, mais depuis 2006, eh bien, le Ghana est membre associé de la francophonie. Alors, bon, les chiffres restent marginaux, hein, selon les chiffres donnés par l'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie. Seul 1% des quelques 28 millions de Ghanéens parlent français, mais 600 000 jeunes l'apprennent actuellement. Et ce nombre, en fait, connaît un vrai essor ces dernières années. Les inscriptions, par exemple, dans les alliances française pour suivre des cours de français donc ont augmenté de 10% en 3 ans. Un pacte doit aussi être signé prochainement entre l'OIF et le Ghana, un pacte pour développer l'apprentissage du français. Alors ça ira de la formation de plus de professeurs à la distribution de manuels scolaires ou encore à l'élaboration commune de méthodes d'apprentissage, des méthodes y compris d'apprentissage à partir de la langue locale du pays ou des langues locales du pays, ce qui est un peu un point sur lequel appuie aussi la francophonie. Écoutez Gilles Amétépé, il est étudiant en sciences politiques et il est le président du club français à l'université d'Accra, la capitale du Ghana, et il m'a expliqué pourquoi les jeunes Ghanéens s'intéressent aux Français.
For a country like Ghana, which is locked in between Togo, Burkina Faso, and Côte d'Ivoire, which are all French-speaking.
On se l'a dit, parlons anglais. Hein.
Ah oui, parce que c'était pour notre antenne, voilà. Mais il parlait un excellent français et je le salue d'ailleurs s'il nous écoute.
Alors, quelles sont ses motivations?
Eh ben, Gilles nous explique en fait que d'abord, tout simplement, le Ghana est entouré de pays uniquement francophones, hein, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire, et que donc il y a donc bien évidemment un vrai intérêt social, mais aussi économique à renforcer les liens avec les voisins francophones. Et puis, dit-il, sur le marché de l'emploi, en fait, parler français est un vrai plus, surtout dans des entreprises qui travaillent à l'international. Le français nous fait sortir du lot, résume Gilles.
Au demeurant, cet intérêt pour le français est en train de compliquer la vie des enseignants. Pour quelles raisons?
Eh ben oui, parce que, bon, alors il manque évidemment des manuels, des moyens, et surtout, il manque des professeurs. À l'université d'Accra, par exemple, il y a plus de 1000 élèves, toutes années confondues, et seulement 15 profs. Et du coup, l'un d'eux, Samuel Kofi, m'a expliqué qu'en première année, par exemple, il a une classe de pas moins de 180 élèves, ce qui n'est bon, vous le reconnaîtrez, pour aucune matière, mais encore moins pour l'apprentissage des langues, dans lequel, on le sait, la participation orale est cruciale, et d'autant plus cruciale, nous dit-il, qu'au Ghana, en dehors de l'école, les occasions, forcément, de pratiquer le français sont très limitées.
Alors, qu'est-ce qui est fait pour remédier à cette situation?
Eh bien, pour ceux qui atteignent la troisième année, il y a un programme, en fait, qui leur permet de passer 10 mois dans un pays francophone, ce qui est évidemment le moyen le plus efficace d'apprendre, selon Samuel Kofi. Et puis sinon, il y a des initiatives comme celle, justement, du Club français de l'Université d'Accra, avec des conférences, des soirées cinéma, poésie, cuisine. Et selon Gilles Amétépé, eh bien, elles attirent même des jeunes qui n'étudient pas le français.
We feel that French is not an old language at all. In Ghana, they don't see French as a colonial language.
Et ben en fait, il explique que pour la plupart des Ghanéens, le français ne paraît pas démodé du tout ou ne rappelle pas la langue du colon, puisqu'évidemment le Ghana n'a pas été une colonie française, et qu'au contraire, il est plutôt perçu comme une langue de winners, puisque les élites ghanéennes qui réussissent, plusieurs d'entre elles parlent le français, que ce soit par exemple l'actuel président Nana Akufo Foufouado, ou encore Kofi Annan, l'ex-secrétaire général de l'ONU, ou encore Anita Ersike, qui est une Ghanéenne qui est à la tête d'un véritable empire médiatique. Et puis il y a bien sûr l'attrait culturel, les groupes togolais, les groupes ivoiriens qui ont la cote en ce moment au Ghana.
Tout cela a été, comme d'habitude, très intéressant. Laura Martel, de la rédaction anglophone de RFI, c'était Accent du Monde. Tout de suite, l'essentiel de ce qui fait l'actualité dans le monde, justement.